Bonjour à vous, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme cet été dans ce contexte inédit. Tiens, on n'en dit pas plus maintenant, là, on sait de quoi on parle. Content de vous voir encore aujourd'hui, aussi nombreux, vous êtes 51 en ce moment en ligne. C'est le fun, c'est ce que je voulais créer, c'est un court rendez-vous une fois par semaine là, pour garder le rythme, être là ensemble, se parler un peu, annoncer un peu le contenu, puis vous laisser de façon tout à fait autonome là, entamer vos lectures, votre écoute de certaines capsules audio, visionner certaines capsules vidéo. Merci encore d'être là. Aujourd'hui, le programme, c'est de vous présenter un peu le module 3, puisque ça avance vite, hein? Deux modules par semaine la semaine dernière. Typiquement, on me demandait ça sur les forums. C'est un module par semaine. C'est le rythme qui est souhaité, mais l'été, c'est un petit peu plus condensé. Donc, des fois, il y aura deux modules, je marche pour que les modules ne soient pas trop lourds, mais typiquement, là, c'est à peu près, si vous gardez un rythme d'un module par semaine, là, vous devriez vous en sortir pas trop mal. Merci pour votre engagement. Encore une fois, là, ça démontre bien qu'un cours d'été, ça peut fonctionner. Là, en ce moment, vous êtes 58 à distance synchrone, donc surtout dans le contexte en ce moment, peut-être que vous avez plus de temps. Besoin justement de ces lieux-là où on peut se réunir. Là. C'est une forme de réunion. C'est pas exactement la même chose qu'être en classe puis entendre la personne à côté tousser puis l'autre en arrière là, pitonner sur son sel. Mais bon, on est là, on est ensemble puis chaque semaine, on peut faire ça. Il y a déjà près de 200 présentations sur mes forums. C'est vous dire comment que ça va vite. C'est dur de garder le rythme pour moi. En fait, pour les présentations, je vous lis tous et toutes, mais je peux pas. Je m'étais donné le défi de répondre ou de vous écrire peut-être votre premier courriel personnalisé de tout votre bac en me servant de votre présentation. Je vais probablement le faire là, pour une centaine de personnes, probablement les 100 premiers qui se sont présentés. Là. Je vais leur écrire en disant, en leur offrant une courte conversation à propos du contenu de leur présentation. Mais en même temps, là, je ne peux pas faire ça pour les 250. Là, j'y passerai dans. En fait, j'y passe déjà un temps fou, mais je me dis au moins une fois dans leur bac, ils vont recevoir un courriel plus personnalisé de leur professeur là, au lieu des fameux courriels là, envoyés à tous là, qu'on aime bien utiliser, qui sont efficaces, mais en même temps qui nuisent un petit peu à cette relation-là là, qu'on essaye de tisser avec chacun d'entre vous. Il y a déjà plusieurs dizaines de mimes tordants, un peu baveux envers le cours, envers l'éthique, envers votre prof, puis c'est bien ainsi. L'important, là, c'est d'être drôle. Bon, ça, c'est le premier critère. C'est aussi de faire des liens avec le contenu de cours. Je pense que vous avez bien compris l'esprit de tout ça. Je partage ça via ma page Instagram, puis ça se relance là, vers la page Facebook. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, là, je vous invite à vous abonner à tout ça. Plusieurs milliers de branchements à l'ENA. Lorsque je regarde les statistiques du cours, là, ça devient vite impressionnant. Merci de le faire. Je vois que le rythme est déjà bien entamé pour plusieurs. Pour d'autres, là, c'est le silence radio. Ceux-là, je vais communiquer avec eux. Mais je dirais pour vous, déjà, si vous êtes ici en classe, là, ça démontre bien que le rythme, vous avez compris là, qu'il fallait dès maintenant et dès la première semaine là, entamer les travaux. Plusieurs téléchargements, j'ai mis le podcast. D'ailleurs, ce qu'on fait en ce moment, là, habituellement, j'essaie de m'en servir pour publier via podcast. Ça aussi, c'est une façon pour vous de rester en lien avec le cours si jamais vous ne pouvez pas être là en après-midi à 2 heures ou lorsqu'on aura des rendez-vous comme ça. Au moins, abonnez-vous au podcast, puis ça vous permettra de l'écouter tranquillement, à votre rythme, en prenant votre marche, en courant un peu, sinon en essayant de vous endormir le soir, ça peut être aussi assez efficace. Merci aussi pour les participations sur les premiers forums, c'est très intéressant. En fait, il y a un forum qui attire toujours mon attention, c'est celui où je vous demande d'illustrer les concepts de ce qu'on a vu au module 2, conséquentialisme, déontologisme, puis éthique de la vertu. Je vous demande d'appliquer ça là, en prenant soit le contenu que vous allez trouver sur tout le débat entourant la COVID-19, comment gérer tout ça. Il y a plusieurs types d'arguments, puis il y a plusieurs arguments qui puisent à ces trois courants-là. Un que j'aime bien, c'est réfléchir aussi à ces trois courants-là, mais les appliquer au monde geek et de la culture populaire. Puis il y a toujours des débats intéressants. C'est là qu'on voit que, bon, c'est pas parce que c'est un cours d'éthique que c'est ennuyant, là. Bien au contraire. Il y a entre autres, vous voyez, ça peut donner quelque chose comme ça. Il y avait un dialogue entre une question, je pense, qui avait été soulevée par Félix Boisvert, où on essaie d'appliquer ces concepts-là. Conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. Puis il y a toutes sortes de réponses qui sont données. Il y a Alex Beauchesne, entre autres, qui a répondu. Et on se demande, ben, les décisions de Thanos, là, dans la fameuse série des Avengers, est-ce que son argument, son plan, là, hein, son plan, il s'appuie sur des arguments. C'est quoi les arguments qui sont sous-jacents à son plan, là? Est-ce que c'est un calcul plutôt conséquentialisme? Est-ce qu'il s'appuie sur... Est-ce que c'est une question de principe, de droit, de conformité au droit ou au contraire une question de valeur? À ce moment-là, quelle serait la valeur qui guide la décision de Thanos de mettre en plan son fameux plan? Je vous invite à aller voir ça. C'est intéressant. C'est loin d'être plate. Encore une fois, moi, ce que je veux voir, là, c'est est-ce que l'étudiant est capable de jongler avec ces concepts-là? Pas pour statuer, là. Telle personne a dit ça, puis c'est conséquentialiste, puis moi, je regarde ça, puis non, c'est faux, c'est déontologiste, puis c'est plutôt un... Donc, mon but, c'est pas de vous corriger, là, c'est de voir, est-ce que vous comprenez bien le sens de ces trois expressions-là, puis est-ce que vous êtes... Puis une façon de voir si vous comprenez, c'est est-ce que vous êtes capable de l'appliquer à quelque chose d'autre que les exemples que j'ai cités en classe? Puis on voit que ça fonctionne plutôt bien. Du moins, c'est toujours très agréable. Et Valérie, mon auxiliaire, là, en témoignera, là, c'est toujours très agréable de vous lire à ce sujet. Travaux d'équipe, 44 équipes constituées, donc 44 travaux à corriger. Moi, c'est comme ça que je les vois. Mais 44 équipes déjà constituées. Merci de l'avoir fait. Il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient oublié de faire tout ça. J'ai ajouté les étudiants qui n'avaient pas encore fait cette tâche, hein, qui sont nommés des petits étudiants orphelins. C'est comme ça que l'ENA les nomme. Ben, j'ai pris ces petits orphelins, puis je les ai mis dans des familles d'accueil, des équipes d'accueil. Et je vous invite à prendre grand soin de ces orphelins, puisque si j'ai été obligé de les ajouter à votre équipe, c'est que déjà, ils avaient une ou deux semaines de retard, ou du moins, ils n'ont pas été capables de faire cette tâche à temps. Donc, soyez attentifs, prenez-en grand soin. Hein, ils ont besoin de votre soutien, de votre patience, de votre support, de votre aide peut-être. Merci d'avoir fait les équipes. Ce que ça veut dire, 44 équipes, ça veut dire qu'il y a 44 équipes qui sont prêtes à entamer les discussions pour faire le TP1. Donc, le TP1, c'est simple, je me permets de le résumer. Vous m'écrivez en groupe. En équipe de 5-6, c'est votre équipe. Un vrai problème éthique que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession. Voilà. C'est réglé. C'est aussi simple. C'est même pas une page. Vous devez m'expliquer c'est quoi le problème. Le problème doit être réaliste au sens où ça doit refléter la réalité, le langage, les enjeux réels. Ça doit être concret, impliquer des vraies compagnies avec donc c'est ce que ça doit être plausible. C'est pas quelque chose que vous allez rencontrer une fois dans votre vie. C'est quelque chose que vous risquez fort probablement de rencontrer. Choisissez votre propre domaine d'études si c'est possible. Sinon, ben, vous allez voir qu'il y a des recoupements, hein, il y a des questions éthiques qui sont transversales là, d'une discipline à l'autre. Mais si vous pouviez choisir un problème propre à votre discipline, dans votre équipe, vous choisissez des problèmes qui vous intéressent, qui sont propres à votre discipline, qui sont réalistes, ben, vous allez éventuellement passer au TP2 qui est de résoudre ce problème-là. Ce travail-là, TP1 et TP2, sera pour vous utile. Sinon, vous pouvez me choisir un problème abracadabrant qui n'existe pas, qui est seulement possible en théorie, vous aurez à résoudre un problème qui n'existe pas. Et à ce moment-là, gageons que vous allez me reprocher de vous avoir obligé de passer autant de temps à résoudre un problème qui n'existe pas. Donc là, vous en avez le pouvoir, vous avez le contrôle. Choisissez-vous un problème qui est pertinent, concret, réaliste pour l'ensemble de votre équipe. puis après ça, on pourra passer au TP2 où vous devrez résoudre ce problème. Autre, cette semaine, le thème du module 3, puisque nous en sommes à la deuxième semaine, mais que c'est le module 3. Les questions sont importantes. Je pense que là on commence à entrer dans le vif du sujet. On va parler de la faute professionnelle, du manquement. Il y a plusieurs questions qui seront abordées. Est-ce que le manquement existe? Est-ce que je suis à risque? Et est-ce que je peux l'éviter? Donc, ça semble des questions simples comme ça, mais je dirais que la question qui, pour moi, m'obsède, c'est peut-être la première. Suis-je à risque? Êtes-vous à risque de commettre un manquement professionnel? Dans le cours, dans l'enregistrement de cours, vous le verrez, je pose cette question-là. Vous pouvez faire l'exercice même en ce moment à la maison. Hein? Si vous aviez à vous donner une note en termes d'intégrité là, sur de 0 à 100, combien vous donnez-vous? Hein? Ou là, le nombre là, qui est assez abstrait là, en ce moment, mais le nombre pourrait nous permettre d'anticiper ou de mesurer votre intégrité, votre capacité à rester honnête, à poser le bon geste dans des situations délicates. Hein, ou 100, là, ce serait une personne parfaitement honnête, et 0, une personne, un criminel en puissance. Donc, combien vous donnez-vous de 0 à 100? Hein, ou 50, ce serait une personne normale. On va la formuler comme ça. Lorsqu'on pose, je vois déjà dans le chat, il y en a quelques-uns qui se donnent des notes. C'est sûr que là, si vous donnez votre note à voix haute comme ça, il y a l'image publique qui embarque, là, mais je vous invite à faire juste l'introspection. Combien vous donnez-vous? Hein, pensez un chiffre. Et tel un mesmer, je vais faire l'effort de deviner ce nombre. Vous allez voir là, sur le forum, j'ai mis des sondages aussi. Vous pouvez répondre aux sondages. C'est à peu près ces questions-là. Ça se fait de façon individuelle, mais ça nous permet de mesurer combien les personnes se donnent en matière, quelles notes se donnent-ils en matière d'intégrité. Les résultats, vous allez le voir bien assez vite, c'est que on a tendance à surestimer. Tiens, ça se voit d'ailleurs dans le chat, il y a peut-être Marc-Olivier Soulière là, qui joue l'ironique de service et qui nous dit « Moi, je me suis donné un. » Bon, c'est pas rassurant pour personne, mais typiquement, les gens, lorsqu'on pose ce genre de questions, ils vont se donner des notes qui sont très légèrement au-dessus de 50. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vous ai dit 50, c'est une personne normale. Typiquement, on a tendance à se penser, à se croire, et à se dire publiquement encore plus, légèrement au-dessus de la norme. Donc, tendance à surestimer notre propre intégrité par rapport à la normale. Hein, c'est impossible de mesurer votre intégrité avec un nombre comme ça, mais ce qui est possible de mesurer, c'est que vous mesurez ou vous estimez très légèrement supérieur à la normale. Donc, il y a une surestimation qui est là. C'est la même surestimation si je vous avais posé la question, et je le fais sur le forum, combien donneriez-vous à vos collègues de classe? Vous avez tendance aussi à les surestimer, donc à leur donner une note qui serait légèrement supérieure à la moyenne, légèrement inférieure à la vôtre, mais légèrement supérieure à la moyenne. Donc ça, il y a toutes sortes de phénomènes psychosociologiques qui sont liés à ça, et on en parle un peu là, dans quelques modules qui viendront éventuellement dans le cours. Mais pour l'instant, on garde cette première information. On a tendance à se surestimer individuellement, collectivement, surestimer nos propres capacités, la capacité de ceux et celles qui nous fréquentent et qui nous ressemblent. On a tendance à surestimer un peu cette force d'intégrité qui serait là, ici et autour de vous, chez vos collègues. Les conséquences de tout ça sont importantes, surtout en matière d'éthique, d'intégrité. Hein, c'est que lorsqu'on surestime nos propres capacités, et c'est vrai si vous faites des calculs de résistance, vous essayez de construire un pont plutôt, si vous mettez à surestimer toutes sortes de forces, vous risquez de faire erreur dans vos calculs et ça risque de mener à certaines décisions peut-être catastrophiques. C'est vrai aussi en matière d'éthique, donc on se surestime, on est prêt parfois à prendre quelques risques supplémentaires. Et ce faisant, ben, il y a des erreurs, sinon des fautes, des fraudes, des manquements qui peuvent survenir lorsqu'on parle de surestimation en matière d'éthique. Il y a entre autres le biais, ce qu'on appelle le biais d'optimisme, là, c'est-à-dire que typiquement, une personne comme vous et moi a tendance à se juger moins exposé à des risques qu'il reconnaît pourtant pour autrui. Par exemple, je vois quelqu'un qui est en automobile, puis qui... Est-ce que c'est bien de pitonner là, sur son téléphone? Ben non, il y a des risques associés à ça, mais en même temps, quand c'est nous qui sommes au volant, ben on se dit, ben, je sais qu'il y a un risque, mais en même temps, je ne suis pas mauvais au volant, puis je suis capable de faire la part des choses, mais ce faisant, il y a une prise de risque qui est excessive, alors que vous êtes au courant du risque en question. Donc, l'idée, là, c'est de comprendre qu'il y a un calcul entre la surestimation des risques et éventuellement la prise de décision qui peut être influencée par cette surestimation de vos propres compétences en matière d'éthique. Ça nous arrive à tous, c'est normal. Un des objectifs aujourd'hui, c'est d'admettre tout ça, hein, que nous avons tendance à nous surestimer. Et la preuve que vous n'êtes pas si bon que ça en matière d'éthique, du moins dans les actions, je pose la même question à mes étudiants, et ça fait de nombreuses années que je le fais. Avez-vous déjà triché à l'université? Je pose toujours cette question-là après leur avoir demandé... êtes-vous bon en éthique? Êtes-vous compétent? Avez-vous une force d'intégrité supérieure à la norme? Et je leur demande, avez-vous déjà triché? Puis la plupart des gens, du moins il y en a plus que 50% qui vont me dire, mais tu sais quoi, j'ai déjà triché dans un examen, j'ai déjà triché dans un travail à l'université, alors qu'ils viennent tout juste de me confier qu'ils sont plutôt, ils se seraient donné 90% là, en matière d'intégrité. Ben voilà, là on le voit là, dans les actions, comment on se conçoit, comment on se comprend et ce qu'on fait, il y a aussi des différences importantes, parfois une distance importante là, entre comment vous concevez et ce que vous faites vraiment lorsque vous êtes confronté à des problèmes. Donc ces problèmes-là existent, la triche existe à l'université, il y a toutes sortes de raisons, on va essayer de voir les causes, les raisons. Dans la présentation du cours, pourquoi vous trichez à l'université, pour éventuellement tenter de comprendre pourquoi vous allez tricher au travail, hein, dans l'exercice de votre profession. Je pense que c'est le lien que j'essaye de faire dans la présentation du module en question. C'est facile de dire au travail, ça va être différent, mais ce que la réalité nous montre, c'est que les habitudes que vous avez prises à l'université, c'est-à-dire que si vous avez pris l'habitude de tricher, tourner les coins ronds, ben ça se peut que ça soit répétable lorsque vous allez être dans le monde du travail. Les causes que vous identifiez en ce moment, le manque de temps, le manque de ressources, le manque de pertinence dans ce que vous faites, le prof qui n'est pas bon, toutes sortes de raisons que, curieusement, ces raisons-là et ces causes vont se répéter dans le monde du travail. Et si les causes se répètent, ben gageons que les résultats risqueront d'être fort semblables. 50%, sachez-le, d'entre vous vont poser des gestes, des manquements, des gestes qui sont tout à fait inappropriés dans le monde du travail. Et là, 50%, là, vous irez voir les sondages en question qui sont cités dans les textes à lire dans le cours. C'est-à-dire qu'une personne sur deux va poser des gestes de l'ordre de mentir à des clients, donc cacher une certaine partie de l'information, leur cacher, oui, des comportements inappropriés. Hein, il y a des attentes, il y a des comportements qui sont attendus de vous dans votre profession. Il y a toutes sortes de comportements que certains d'entre vous, une personne sur deux, au moins une fois dans sa vie, va avoir ce genre de comportement-là inapproprié. Mentir à propos, vous allez voir les sondages en question, mentir à propos des heures travaillées, utilisation inappropriée de l'Internet, des ressources, violer certaines normes de travail. Évidemment, les pourcentages décroissent là, au fur et à mesure qu'on avance dans ces différents exemples. Violation des normes de sécurité, c'est 15%. Donc, une personne sur 10, un peu plus, une personne sur 9 va violer des normes de sécurité. Hein, c'est important, mais il y a quand même une personne sur 10 d'entre vous qui risque de poser ce genre de geste. Vol, une personne sur 10. Discrimination, harcèlement sexuel, une personne sur 10 aussi, harcèlement sexuel. Donc, c'est quand même des pourcentages qui sont importants. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire dans la présentation, vous irez voir l'enregistrement, c'est de vous aider à faire ce lien, voir, observer qu'est-ce que vous faites en ce moment à l'université et comment ces comportements-là pourraient ou non se répéter dans l'exercice du travail. Et pourquoi je fais tout ça? C'est parce que pourquoi je tente de vous démontrer que vous n'êtes pas si compétent que ça en matière d'éthique et d'intégrité et que vous surestimez peut-être votre intégrité, peut-être que vous surestimez vos compétences éthiques. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous n'admettez pas ça, je perds mon temps dans ce cours. C'est le propre à... Peut-être c'est la matière enseignée. C'est sûrement la matière enseignée. En fait, lorsqu'on donne un cours d'éthique, typiquement, il faut convaincre notre auditoire. C'est la première chose qu'on doit faire. Tenter de les convaincre qu'ils ne sont pas si bons que ça. C'est une démonstration que j'essaye de faire tout de suite au module 3 parce que sinon, tout ce que je vous dirai par la suite, ça a très peu d'influence sur vous. Hein. C'est-à-dire que moi, je me suis inscrit récemment à un cours en intelligence artificielle puis tout ça. Là. Je connais rien là-dedans. Puis je suis arrivé le premier cours, je ne me suis pas dit, tu sais quoi, je suis bon là-dedans. Hein? Cher prof, je suis très bon là-dedans. Essaye de m'impressionner avec tes théories sur les algorithmes puis tout ça. Essaye de m'en montrer pour voir. Alors qu'en éthique, c'est souvent le cas. Pour avoir donné des conférences à de multiples reprises avec à notre auditoire, un des premiers objectifs, c'est de leur démontrer qu'ils ne sont pas si compétents. Et peut-être que j'ai quelque chose, peut-être que j'ai quelque chose à vous apprendre. Et à ce moment-là, si on réussit à dépasser ce premier stade-là, peut-être qu'il y aura apprentissage. Mais sinon, on perd notre temps. Et tout ce que je dis en ce moment, les études que je vous donnerai, vous allez plus ou moins les lire, y croire et surtout rien ne retenir parce que vous vous direz « ben, je suis bon là-dedans, je n'ai pas vraiment besoin d'écouter et d'entendre, sinon de comprendre tout ça. » C'est le principe là, de la double ignorance là, appliquée à la double ignorance, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le concept, c'est l'idée que il n'y a pas pire ignorant que quelqu'un qui ignore ses propres ignorances. Hein? Essayer de débattre avec quelqu'un qui se pense compétent, c'est vraiment très compliqué. Alors que si vous essayez de débattre avec quelqu'un qui se sait ignorant et qui est décidé à apprendre, déjà, là, l'apprentissage est beaucoup plus facile, aisé avec lui. Donc, je dirais que la démonstration là, du module 3, c'est un peu vous sortir de cette double ignorance, vous montrer que vous avez des lacunes, vous avez des failles et peut-être que vous faites aussi partie du problème. Et si vous admettez tout ça, ben peut-être que vous ferez aussi partie de la solution. Et si vous n'admettez pas que collectivement et individuellement, vous avez certaines failles, certains problèmes, ce sera difficile de vous aider individuellement et collectivement à trouver des solutions à ces problèmes. En gros, vous êtes normaux. Nous avons des failles. Et je fais partie de tout ça, là, je ne me mets pas au-dessus de tout ça. Nous sommes normaux. Et si vous êtes normaux, ça fait partie d'une longue démonstration que je vais tirer sur quelques modules, là, mais je vais tenter de vous démontrer plusieurs affirmations. D'abord, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité. Hein? Là, je suis déjà en train de faire cette démonstration-là. Si vous voulez avoir plus de détails, vous irez voir l'enregistrement de cours. Vous avez déjà triché. Vous le ferez encore. Et pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est la deuxième affirmation. On va la voir au module 3. C'est le module que nous entamons en ce moment. Vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels ou ceux de vos proches ou de vos semblables, ce qui est une extension un peu des intérêts personnels. On le verra ensemble au module 9 sur le conflit d'intérêts. Vous avez tendance, nous sommes tous normaux, même si on vous demande de protéger le public, mais vous avez plutôt tendance à protéger vos propres intérêts personnels. Donc, comment faire pour jongler avec cette tension-là lorsque, dans l'exercice de votre profession, on vous demande de penser aussi, s'il vous plaît, à l'intérêt public? Vous avez généralement tendance, quatrième affirmation, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Et on verra ça au module 10 et aussi au module 10, on verra ensemble que vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Donc, module 10, là, comment parmi les failles, là, une des failles importantes individuellement et comme groupe, c'est que vous avez plutôt tendance à suivre l'autorité en place et à suivre les comportements de vos collègues. Il y a une question de Maude, je vais me permettre de répondre tout de suite à la question Maude. Attendez, j'essaie de vous voir, je vais essayer d'allumer. Maude, René, où êtes-vous? Maintenant, je vous entends, Maude, allez-y.
Dans le fond, je me demandais, vous avez parlé de... vous avez donné comme exemple de tricher à l'université, mais je me demandais s'il y avait vraiment une différence, par exemple, entre comme tricher à l'université avec, par exemple, l'intention... je sais pas, d'avoir une meilleure note à un examen, un travail, peu importe, en sachant que ça aurait peut-être moins d'impact sur, justement, le reste de la communauté. Tandis que, si on prend, par exemple, l'exemple de Karen...
Duhamel?
Dans ce cas-ci, c'était vraiment... ouais, c'est ça, c'était vraiment de voler de l'argent à des gens, puis je pense que ça avait, comme... l'intention était mauvaise, tandis que je pense que tricher un examen, j'ai l'impression que ça serait... des intentions qui sont pas nécessairement mauvaises pour le reste de la communauté, mais je me demandais est-ce que ça aurait comme ça aurait une différence d'impact, j'imagine, puisque les intentions sont pas les mêmes dans deux cas différents.
Tout à fait. Donc, ce qu'on va voir dans le cours, merci de votre question, Maud. Ce qu'on va voir dans le cours, c'est effectivement l'intention, ça fait une différence sur notre appréciation de la gravité, éventuellement des sanctions qu'on peut donner à l'endroit d'une faute. Mais qu'est-ce que j'aimerais explorer avec vous, c'est justement le fait qu'il y a des bonnes raisons qui expliquent pourquoi les personnes trichent et éventuellement vont poser certains manquements dans l'exercice de leur profession. Souvent, ils ont de bonnes intentions, ils se veulent honnêtes. Il rentre à tous les matins en se disant « je veux être honnête aujourd'hui, je veux être intègre ». Ah, mais il y a toutes sortes de causes. Parfois, c'est des causes qui sont systémiques, c'est-à-dire que c'est des causes organisationnelles et systémiques qui sont appliquées sur cette personne-là qui vont faire en sorte qu'elles vont poser un geste qui l'éloigne de ses idéaux ou des idéaux de sa profession. Parfois, c'est des pressions internes, des biais psychosociologiques, on va en voir. Mais pourquoi je l'aborde là, avec l'exemple de l'intégrité ici à l'université, c'est parce que cette réalité-là, vous la connaissez mieux. Hein? Ça, vous savez, c'est quoi les pressions à l'université? C'est quoi les pressions qui sont exercées sur vous? Et vous connaissez aussi individuellement, vous savez c'est quoi qui peut faire en sorte que vous allez tricher à l'université. Donc, le but, c'est d'identifier plus simplement pour vous, avec un problème concret qui est la triche universitaire, quelles sont les causes de cette triche? Quelles sont les causes externes, les causes internes? Pourquoi, hein, vous dites, ça dépend si on a de bonnes intentions, si on veut bien faire, tout ça. Donc, on va voir ce type d'argumentaire-là, les types de causes et de raisons à partir de cet exemple précis là, qui est la triche universitaire, et éventuellement vous aider à réfléchir à ce à quoi ça pourrait ressembler la triche dans le monde du travail ou les petits manquements ordinaires et quotidiens qui peuvent se voir dans le monde du travail pour dès maintenant identifier les causes et éventuellement trouver des pistes de solutions. J'espère que ça répond un peu à votre question, Maude, mais vous verrez. Là. Vous avez d'autres questions, si une fois vous avez passé à travers le module, si ça ne répond pas à vos questions, n'hésitez pas à les reposer, soit sur les forums de discussion ou sinon en classe. Là. Je vous promets que ça sera moins long de trouver votre micro la prochaine fois. Donc, vous êtes normaux. Je vous ai fait la liste des affirmations que je souhaite vous démontrer au cours des prochains modules. Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans le module 3 ou cette semaine plutôt, ce qu'on va voir, c'est que vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale et que vous avez déjà triché pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. mais que ces bonnes et moins bonnes raisons risquent de se reproduire dans l'exercice de votre profession. Et vous avez bien raison de préciser, Maude, il y a une différence entre la collusion, corruption, puis quelqu'un qui triche dans un, du bout des lèvres là, dans un petit travail universitaire pas trop important, puis c'est pas si grave que ça. Et en termes de gravité, il y a évidemment un spectre important. Mais le but, c'est de vous aider à voir quelle serait la gravité de certains de vos gestes, de les mesurer, les anticiper, éventuellement d'éviter de poser les gestes qui sont les plus graves et d'éviter aussi de poser certains gestes qui vous semblent peut-être pas graves, mais qui peuvent être graves lorsqu'on les regarde dans leur ensemble. L'exemple qu'on donne souvent en éthique, là, c'est une vieille blague d'éthicien, là. C'est l'enfant qui revient à la maison puis qui s'est fait chicaner. Il se fait chicaner par son père parce que son père lui dit « Comme ça, ton prof a dit que tu volais des crayons, je suis pas content, puis je vais te chicaner, puis tu vas passer la semaine dans ta chambre. » Puis le père ajoute à la fin « Écoute, tu t'en veux des crayons, tu me le dis, j'en ai plein au bureau, je vais t'en rapporter. » Donc, c'est des petits gestes comme ça qui ont l'air anodins, voler des crayons. Qu'est-ce que c'est rien, mais en même temps, si les 5000 employés partent avec chacun 2-3 crayons, 10$, sinon 100$ de matériel, ben à la fin, ça fait quand même un problème important. Donc ça aussi, on va le voir. Les problèmes très graves et très rares, qui eux sont plus faciles à détecter, à la limite, plus faciles à régler, et les petits problèmes, petits manquements, peut-être moins graves, mais qui sont très communs et qu'on souhaite que vous évitiez de commettre. Voilà. Donc, suis-je à risque? La démonstration que je vais vous tenter de faire, c'est que oui, vous aussi, individuellement, personnellement, et là, je parle à vous, vous êtes 77 maintenant, là, chacun d'entre vous, je vais essayer de vous tenter de vous démontrer dans cette présentation que vous êtes à risque, que ce n'est pas seulement un problème qui concerne les autres. Vous êtes individuellement à risque. Et si vous admettez ça, ben à ce moment-là, ce sera important et ce sera pertinent pour vous. Les autres questions que je vais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'un manquement, une faute professionnelle? On va tenter d'abord de définir ces termes. C'est quoi un manquement? Comment on le mesure? Comment distingue-t-on un manquement qui est grave d'un manquement qui l'est peut-être un peu moins? L'intention, c'est un critère important lorsqu'on parle de manquement. Est-ce possible que dans l'exercice de la profession, certains professionnels commettent des manquements? Dans quelle mesure? Est-ce que c'est rare? Donc là, ici, j'ai plusieurs études, plusieurs chiffres qui vous démontreront qu'il y a certains gestes qui ne sont pas rares du tout. Certains sont très rares, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas très grave. Si c'est très commun, ben, ça peut nuire au système dans son ensemble. Si chacun dévie très légèrement de la règle, mais que c'est une majorité qui dévie très légèrement de la règle, on se retrouve avec un système où la majorité dévie un peu de la règle ou des attentes du public, notamment. Identifier les causes. Donc, pourquoi commettons des manquements? Là, je me servirai de l'exemple de la triche, du plagiat, entre autres. Pourquoi avons-nous tendance? Quelles sont les causes organisationnelles, personnelles, individuelles? Quelles sont les causes? Et éventuellement, une fois qu'on connaît bien les causes, comment peut-on agir ensemble, individuellement, collectivement, sur ces causes, pour trouver des pistes de solutions à ces problèmes. Et la marche à suivre pour ce module 3, ben, je vous l'annonce dès maintenant et vous pourrez la trouver au module 3. Vous êtes en classe aujourd'hui, vous visionnez les enregistrements de cours qui sont prévus. Il y a des sondages, dont je vous ai dit quelques mots déjà. Vous consultez, lisez les PowerPoint que j'ai distribués en classe, vous faites les modules. Il y a aussi un important module sur la commission Charbonneau. Donc ça aussi, ce sera important pour vous de vous familiariser avec cette commission. C'est une grande commission, ça fait déjà plus de 5 ans maintenant là, que cette commission-là est terminée. Pour vous, c'est de l'histoire, pour moi, c'est quasiment de l'actualité, là, mais je m'y fais tranquillement à ce que ça fasse partie désormais de l'histoire. Mais c'est très important, entre autres parce que ça ciblait l'industrie de la construction. Donc, c'est pas parce qu'on parle pas des autres professions qu'il n'y a pas de problème, mais ça ciblait les ingénieurs, surtout dans l'industrie de la construction, donc dans ce domaine particulier. Et ça nous donne un très bon aperçu là, de ce à quoi ça peut ressembler des professionnels qui sont plongés dans un système qui n'est pas tout à fait favorable aux gestes et à l'intégrité, à l'honnêteté. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui, si on vous avait plongé dans ce système, probablement que vous auriez participé aussi à ce système, ou sinon que vous auriez subi les conséquences de ce système, très certainement. Donc, la commission Charbonneau, allez voir, j'ai un petit module animé, commenté, une petite vidéo qui est associée à ça. Là, si vous voulez la voir, ça vous donnera un aperçu. Ça mettra aussi dans le contexte la présentation ou la vidéo que vous avez vue de Karen Duhamel. Donc, je vous ai montré l'échelle de cet ingénieur-là, à quoi ça ressemblait le problème. Puis, la vidéo là, sur la commission Charbonneau vous brosse un portrait d'ensemble des faits allégués pendant cette fameuse commission. Et vous participez aussi au forum de discussion. Vous allez compléter les questionnaires qui sont associés. Donc, je vous invite donc à aller visionner la vidéo sur la commission Charbonneau. Hein. Pourquoi je vous demande de regarder ça, c'est entre autres parce que j'aimerais vous démontrer là aussi que vous auriez fort probablement pris dans un système où les figures d'autorité en place étaient corrompues, les pairs, le comportement des pairs était assez bien répandu. Donc, gageons que si on vous avait plongé, du moins c'est la démonstration que je tente de faire, si on vous avait plongé, vous aussi, et là vous êtes 76, là, gageons que si on vous avait plongé, vous aussi, chacun d'entre vous, dans ce système, gageons qu'il y en aurait une grande majorité qui aurait participé à ce système. Donc, c'est une partie des réflexions que je vous propose dans ce module. Et éventuellement, mettre en contexte l'histoire de Karen Duhamel. Hein, c'est-à-dire que le module 1, ce que je voulais faire avec le module 1, c'est vous faire ressentir, il y a une intention pédagogique derrière. Ce que je voulais vous faire ressentir, c'est le manque, le besoin d'aide. Hein, vous faire sentir comme elle, dépourvue au sein d'un système qui est en train de l'avaler. Elle n'a pas de recours, elle a très peu d'aide, elle téléphone à son ordre professionnel, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Elle se fait tasser, sinon boulier, par ses patrons, ses collègues. Donc ça, je voulais vous le faire ressentir. Là aussi, c'est pour vous donner envie de tenter. Je me suis dit, mes étudiants, une fois qu'ils vont voir ça, ils vont ressentir le manque. Puis à ce moment-là, on va essayer de combler ce manque de mon côté, vous donner des informations, des pistes de solutions. Le module 3, c'est un peu différent. C'est une fois que vous avez vu Karen Duhamel et vous avez subi comme elle le système, c'est tenter avec vous de vous démontrer que peut-être que vous auriez été acteur de ce système. Peut-être que vous, individuellement, collectivement, vous faites aussi partie du problème. Il y a toutes sortes de causes qui expliquent pourquoi vous pouvez participer à un tel système. Donc, essayez de voir ensemble quelles sont vos failles pour déjà commencer à travailler sur ces failles, vos propres manques, que ce soit des manques en matière de connaissances, des fois des mauvaises habitudes qui sont déjà prises ici à l'université, sinon dans votre parcours scolaire, pour éviter de générer, encore une fois, des systèmes qui pourraient ressembler à ça. Ce ne sera jamais aussi grave que ce que vous allez voir dans la commission Charbonneau, du moins je le souhaite. Mais c'est quand même le fait, là, il y a plusieurs systèmes, c'est peut-être pas dans l'industrie de la construction, mais prenez dans d'autres domaines, toutes sortes de mauvaises habitudes, plusieurs acteurs qui ensemble dévient un peu légèrement à gauche, à droite de la règle, et à la fin on se retrouve avec un système qui est un peu, parfois beaucoup, à côté de la traque. OK? Donc, le module 3, ça vous sert à explorer ce genre de questions. Les objectifs du module. Définir, reconnaître la faute et le manquement professionnel. Donc, on va le définir ensemble. À la fin du module, vous devriez être capable d'estimer le nombre de manquements, de fautes graves ou plus ou moins graves. Mais vous devriez déjà avoir une idée de à quoi ça ressemble, le portrait des manquements, des fautes, des sanctions qui peuvent être données aussi à l'endroit de professionnels comme vous. D'expliquer les causes. Donc, si quelqu'un vous demande pourquoi ces professionnels-là commettent-ils ce genre de gestes? Pour répondre à cette question-là, il faut vous demander la question, pourquoi vous trichez à l'université? Pourquoi trichons-nous? Tiens, je vais m'inclure là-dedans, sans vous faire de confidences. Pourquoi trichons-nous dans l'université ou dans certains contextes? Quelles sont les causes? Et une fois qu'on aura identifié ensemble quelles sont les causes, bien, peut-être pourrons-nous trouver ensemble des manières d'agir sur ces causes pour améliorer et trouver le système en place et trouver ensemble des pistes de solutions. Voilà, c'était ma courte présentation du module. Avez-vous des questions? J'ai pas eu le temps de suivre tout ce qui se disait sur le chat. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main, puis je vous promets de vous donner rapidement le micro, puis de façon à ce que vous puissiez poser vos questions. J'attends quelques secondes. Je vous laisserai le temps de poser vos questions maintenant. Alexandre Letourneau demande « Le PowerPoint que vous avez déposé sur le site est différent de celui que vous présentez en ce moment. Est-ce possible de le mettre à jour? » Non, le PowerPoint que j'utilise en ce moment, c'est un PowerPoint très résumé du module. Je vous invite vivement à aller consulter l'ensemble. En fait, j'ai fait du collage, là, donc j'ai coupé mon contenu de mon PowerPoint qui durait, il y avait peut-être 100 diapos. J'en ai gardé une dizaine. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir plus de contenu, à aller sur le PowerPoint du module. C'est à peu près les mêmes choses qui sont présentées. C'est juste que c'est évidemment enrichi puisqu'il y a beaucoup plus de contenu sur ces PowerPoints. Mathieu Coton, est-ce que la triche par des collègues tend à populariser la triche? Y a-t-il des études à ce sujet? Il y en a de nombreuses études à ce sujet. Comment le comportement des pairs influence votre comportement? On va faire un module entier là-dessus. Ben, là-dessus. Il y en a la moitié du module qui sera là-dessus, l'influence par les pairs. Il y a plusieurs études. Regardez ce qui se passe sur Facebook ou les réseaux sociaux, comment un groupe peut influencer l'opinion d'un individu. C'est très bien documenté maintenant avec les nombreuses données que vous nous donnez là, en ligne. Là. C'est juste de regarder comment une personne, on la plonge dans un système, on la plonge dans un réseau social où le réseau a telle opinion politique et rapidement l'individu là, se fera convaincre par le groupe. Donc ça, il y a de plusieurs études. Vous en verrez quelques-unes dans les modules ciblés. Mais effectivement, le fait d'être entouré par collègues, pensez à l'université. Si vous êtes entouré de collègues qui ont tendance à tricher à gauche, à droite, parfois c'est dans certaines associations que c'est répandu, sans pointer des associations, mais c'est sûr que ça influence le comportement. L'individu n'est pas fou. S'il voit que tout le monde triche, ben, il a beau avoir de fortes valeurs, de grands idéaux, ben, peut-être que sa propre survie au sein du groupe, ses propres intérêts personnels vont prendre le dessus là, sur ses quelques grandes valeurs. Donc oui, effectivement, ça a, cette triche-là, la triche autour de vous peut évidemment influencer votre propre comportement. Ah, une question de Jonathan Gignac. On va lui donner son micro. Voilà, Jonathan, vous pouvez poser votre question.
Ouais, est-ce que tu m'entends?
Oui, je vous entends.
Oui, j'avais une question au niveau de éthique de valeur et éthique déontologisme, admettons.
Oui, éthique de la vertu puis déontologisme.
Ça se peut-tu que les deux se chevauchent des fois?
Oui, je dirais que c'est ça dépend de comment vous allez l'expliquer, mais je dirais que le plus facile à distinguer, c'est conséquentialisme. Là. Donc, dans le module 2, on expliquait bien. Le conséquentialisme, typiquement, c'est un calcul des conséquences, puis on essaie de faire la balance. D'ailleurs, le gouvernement en place là, utilise souvent cette image-là, là, la balance des avantages, des inconvénients. Conséquentialisme, c'est davantage ça. On calcule, puis on essaie de voir qu'est-ce qui va faire le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, celui-là est plus facile à voir. Éthique de la vertu, c'est lorsque la personne va justifier ses décisions en fonction d'une valeur. Hein? C'est-à-dire que moi, je vais prendre tel type de décision. Ah, c'est Siri qui vient de se réveiller. Désolé. Donc, éthique de la vertu, qu'est-ce que je disais? Éthique de la vertu, c'est lorsqu'on prend une décision en fonction d'une valeur. Hein? Sans même définir quelle est cette valeur, on va simplement la postuler. Postuler aussi que vous comprenez le sens que j'attache à cette valeur-là. Puis c'est ça qui va motiver ma décision. C'est ça qui va lui donner sens et qui va justifier ma décision. l'exemple que je vous donnais de Thanos. Là. Thanos, là, il y a plusieurs discussions sur le forum, mais Thanos, pour moi, son projet, là, je dirais que la valeur d'équilibre chez Thanos, elle est très importante. Il y en a plusieurs qui argumentaient en disant il essaye de faire un calcul, il veut en enlever une partie, le plus grand bien pour le plus grand nombre. C'est curieux, mais Thanos, il veut enlever la moitié. Donc, juste ce plus grand nombre-là, il est difficile à mesurer. Une fois que tu en as éliminé la moitié, je pense que son but, c'est pas nécessairement de s'assurer. Si c'était un calcul conséquentialiste, il aurait plutôt tendance à dire on va en sacrifier une centaine puis pour le plus grand bien-être des 10 000 autres là, qui vont survivre. Ça, ce serait un calcul conséquentialiste. Là, il en enlève la moitié, et je dirais que ce qui motive sa décision, c'est plus l'idée d'équilibre, que chaque être humain survivant puisse avoir accès aux ressources, tout ça. Donc, il y a une espèce de conception de ce à quoi serait la vie bonne, ce à quoi serait l'équilibre. Mais vous voyez que de l'éthique de la vertu, là, une fois qu'on a défini la vertu en question, pour lui, c'est l'équilibre. On serait en droit de lui demander qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'équilibre? Qu'est-ce que serait une vie bonne? Donc, je pense que l'éthique de la vertu, pour bien la cerner, là, c'est quelqu'un qui, dans son argumentaire, essaie de justifier en fonction d'une valeur. Par exemple, moi, je prends cette décision-là en fonction de la dignité humaine. On le voit dans les médias en ce moment, là. Il y a toutes sortes de calculs, la balance des avantages, des inconvénients, puis il y en a toujours un qui finit par dire la dignité des humaines, la dignité des personnes âgées, là, vous avez beau faire vos calculs, on a beau réouvrir, il faut faire attention à ça, ça n'a pas de prix, là, cette dignité-là. Hein? Donc, d'invoquer comme ça une valeur aussi forte, ça, c'en est de l'éthique de la vertu. Déontologisme, c'est lorsqu'on on refuse d'expliquer ce qui se cache derrière les devoirs et obligations, mais qu'on ne fait que s'y conformer. C'est-à-dire que nous avons tous, chacun, des devoirs et obligations à respecter. Et pourquoi je prends telle décision? Parce que ce sont mes devoirs et obligations. Il y a quelque chose de circulaire dans le déontologisme. Pourquoi je fais tel geste? Parce que ma religion m'y contraint. Hein? Donc, on réfléchit pas à ce sur quoi s'appuient les devoirs, mais ce qui rend la décision importante, c'est ou pertinente ou bonne, c'est le fait de me conformer à des devoirs et obligations qui ont été édictés, écrits par d'autres autorités qui sont supérieures à moi, en l'occurrence. Donc, vous voyez un peu la nuance. Je pense qu'entre conséquentialisme puis les deux autres, c'est plus facile à voir. Entre déontologisme et éthique de la vertu, je dirais que ça dépend comment on donne place à la question des valeurs et la question des devoirs. Si vous avez tendance à orienter plus en fonction des valeurs, ce serait plus de l'éthique de la vertu. Et si c'est plutôt l'idée de se conformer à certains devoirs et obligations, peu importe d'où ils viennent, ce serait plus du déontologisme. OK, alors ce serait tout. Je vais laisser quand même le chat ouvert. Il y en a qui sont encore en train de chatter. Je vais laisser le chat ouvert encore quelques minutes. Sinon, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ce ne sera pas plus long que ça chaque semaine. La première semaine, c'était un peu plus long là, parce qu'il y avait la présentation du cours, présentation des deux modules. Mais à chaque semaine, ce ne sera pas plus long que ça. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Prenez soin de vous, c'est tout. Lavez-vous les mains souvent, restez à 2 mètres, puis prenez soin de vous et de vos proches. Allez, bye bye.